Vous écoutez, on lit pour vous.
Nos enfants vont mal et voici pourquoi. Un texte d'Alexandre Sirois, paru le 20 mars 2025 dans la presse. De trop nombreux enfants ne vivent plus véritablement avec nous sur Terre dans le monde réel. Car l'enfance a été transformée de façon radicale. Et il est urgent d'agir pour y remédier. Le psychologue social Jonathan Haidt, dont le livre à ce sujet est publié ces jours-ci au Québec, en est persuadé. C'est un peu comme s'ils étaient la première génération à grandir sur Mars, écrit-il au sujet des jeunes d'aujourd'hui dans « Génération anxieuse, en quoi la transformation numérique provoque une mutation de l'enfance et contribue à la crise de la santé mentale des jeunes ». En entrevue cette semaine, en direct de son bureau à la Stern School of Business de l'Université de New York, il expose en détail ce qu'il a découvert lors de ses recherches ces dernières années, y compris des solutions pour sauver nos jeunes. Nous sommes une espèce biologique et nous avons évolué sur la planète Terre dans des environnements naturels. Cela ne signifie pas que nous devons élever nos enfants dans la forêt tropicale ou dans la savane, explique-t-il d'abord. Mais l'une des caractéristiques essentielles est que les enfants doivent pouvoir courir et jouer et de cette manière apprendre à devenir indépendants et à s'auto-surveiller, poursuit l'expert. Ils doivent avoir des millions d'occasions de pratiquer l'interaction sociale. C'est possible, même pour les enfants qui grandissent dans une ville, mais dès qu'on leur a donné des écrans tactiles, ils ont cessé de faire la plupart des autres choses. Pour étayer son argument, il cite de nombreuses études et données. L'une des statistiques les plus effroyables, à son avis, c'est que la moitié des adolescents américains admettent depuis 2018 qu'ils sont en ligne presque tout le temps. 1 sur 2. Cela signifie qu'ils ne sont jamais pleinement présents dans tout ce qu'ils font. Ils passent beaucoup moins de temps avec d'autres personnes, ils rient beaucoup moins avec les autres, ils voient beaucoup moins le soleil, ils dorment moins, ils font moins d'exercice, souligne Jonathan Haidt. Donc, à tous ces égards, une enfance basée sur un téléphone intelligent revient à grandir en dehors de la planète Terre, lance-t-il. Les enfants s'en sortent très, très mal et sont très affaiblis. C'est ce que je voulais dire avec cette métaphore. Jonathan Haidt n'y va pas de main morte. Il accuse les entreprises de l'industrie technologique, y compris celles qui sont responsables des réseaux sociaux, des jeux vidéo et des sites pornographiques, d'avoir reconfiguré l'enfance et changé le développement humain à un point quasi inimaginable. J'étais curieux de savoir ce qu'il répond aux plus optimistes, qui minimisent les problèmes créés par cette révolution technologique en affirmant que les précédentes, apparitions de la télé, de la radio, etc., ont donné lieu à de trop grandes inquiétudes. La révolution actuelle est différente, affirme l'expert. 3 fois plutôt qu'une. Premièrement, il n'y a jamais eu de nouvelle technologie qui, lorsqu'elle a été introduite, a été associée à une augmentation gigantesque des problèmes de santé mentale, presque immédiatement. Ça ne s'est pas produit avec la télévision, les bandes dessinées, la radio ou la bicyclette, explique Jonathan Haidt. Il aborde ensuite la question de l'origine des craintes actuelles. Une panique morale traditionnelle est propagée par les médias, souligne-t-il. Mais cette fois-ci, c'est radicalement différent. Parce que la panique est propagée par le fait que presque tout le monde a un enfant dans sa propre famille ou dans une famille qu'il connaît qui est devenu anxieux, dépressif, suicidaire, qui s'automutile ou qui a développé un trouble de l'alimentation à cause d'une utilisation intensive des réseaux sociaux. Enfin, les technologies précédentes avait suscité l'adhésion des jeunes. Ce n'est pas le cas avec les téléphones intelligents et les réseaux sociaux. Lorsque vous interrogez la génération Z, ils pensent que c'est mauvais. Ils disent que cela leur nuit, mais qu'ils sont piégés, signale-t-il. Les enfants d'aujourd'hui sont pris dans une tempête parfaite. Parce que Jonathan Haidt démontre aussi que les téléphones intelligents sont entrés dans leur vie au pire des moments. Les enfants étaient déjà fragilisés par la tendance à la surprotection des jeunes dans nos sociétés qui s'est accélérée dans les années 1990. On a, par exemple, commencé à moins les laisser jouer de façon autonome en plein air. Ça, c'est entre autres produit en raison du déclin du capital social, une thèse développée, celle-là, par le politologue américain Robert Putnam. Autrement dit, la confiance mutuelle s'est effritée. On ne fait plus confiance à ses voisins. Jonathan Haidt souligne que « Nous étions tous des techno-optimistes dans les années 1990 et 2000. Nous pensions qu'il était plus sûr de mettre nos enfants en ligne que de les laisser se promener en ville. » Ce phénomène donne lieu, depuis plusieurs années, à une situation hautement paradoxale. On protège trop nos enfants dans le monde réel et on fait preuve d'un laisser-aller généralisé dans le monde virtuel. Heureusement, certains commencent à se réveiller. Ce sont pour l'instant principalement des mères qui montent au front, observe Jonathan Haidt. Il raconte par exemple que la femme du premier ministre d'un des États de l'Australie a lu son livre et a encouragé son mari à agir. De fil en aiguille, le gouvernement du pays a adopté en 2024 une loi interdisant l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Au Québec aussi, ça commence à bouger. On a créé la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes. Elle déposera son rapport d'ici la fin de mai 2025. Il y a quelques mois, je m'étais entretenu avec plusieurs députés qui y siègent. Ils veulent protéger nos jeunes. J'ai demandé à Jonathan Haidt ce qu'il leur recommande. Premièrement, le gouvernement devrait interdire les téléphones dans les écoles du début à la fin de la journée, pas seulement en classe. Aux États-Unis, des changements flagrants ont eu lieu dans les écoles qui ont osé le faire. On entend à nouveau des rires dans les couloirs, dit-il. D'autre part, de nombreux parents disent que leur enfant est moins accroché à son téléphone à la maison parce qu'il est moins dépendant. Deuxièmement, les écoles devraient aussi réduire et retirer les technologies utilisées pour l'apprentissage, comme les ordinateurs. Lorsqu'on met un appareil sur le bureau, c'est une machine à distraire et cela affecte surtout les élèves les plus faibles, déplore le professeur. Enfin, il faut imiter l'Australie. Fixer une majorité numérique à 16 ans et forcer les entreprises technologiques à la respecter. Le temps presse, car ça ne va pas en s'améliorant. La tendance générale est que les choses empirent, rappelle Jonathan Haidt. Parce que des enfants de plus en plus jeunes sont équipés d'écrans tactiles, ce qui interfère avec leur développement précoce. Il cite une étude récente qui révèle que 40% des enfants américains de 2 ans ont désormais leur propre iPad. Vous avez bien lu. 40%. Je suis sûr que c'est la même chose au Canada parce que tout le monde a découvert qu'il suffit de donner à l'enfant un appareil à écran tactile, puis il est heureux et vous pouvez vous occuper de vos courriels, de vos textos, de vos réseaux sociaux ou de la préparation du dîner. Là-dessus, Jonathan Haidt a raison. Tout comme il a raison d'affirmer que le prix payé par nos jeunes est beaucoup, beaucoup trop élevé. Extrait du livre. Je ne dis pas que les enfants de 11 ans devraient être coupés de l'Internet. Je dis que le grand recablage qui a remplacé l'enfance du jeu par l'enfance du smartphone est la cause majeure d'une épidémie internationale de maladies mentales chez les adolescents. Nous devons faire preuve de vigilance et nous demander quels enfants ont accès à quels produits, à quel âge et sur quel type d'appareil. L'accès illimité à tout, partout, à tout âge, s'est révélé désastreux, même si l'on compte quelques rares bénéfices. C'était « Nos enfants vont mal et voici pourquoi », un texte d'Alexandre Sirois, paru le 20 mars 2025 dans La Presse.
Les stratégies de décaissement les plus performantes. Un texte de Beneva, paru le 22 février 2025 dans Virage. Il existe certaines façons de retirer ses placements à la retraite pour payer le moins d'impôts possible. Voyons quelles sont les stratégies de décaissement les plus performantes des points de vue financiers et fiscal. Quel est le meilleur moment pour commencer à décaisser vos REER? Quand vous en aurez besoin pour combler vos besoins financiers. Plusieurs personnes retraitées hésitent en effet à retirer leurs placements enregistrés pour diverses raisons. De l'épargne au retrait. Pour certaines personnes, il peut être difficile de passer du mode épargne au mode retrait. Pourtant, en principe, c'est justement pour ça qu'elles ont accumulé cet argent. D'autres souhaitent sauvegarder ce patrimoine pour leurs enfants après leur décès. Il faut évidemment respecter les croyances de chacun, mais une question s'impose tout de même. Quel âge auront ces enfants après le décès des deux parents? 55 ans? 60 ans? Auront-ils vraiment besoin de cet héritage à cet âge? Quelle différence cela fera-t-il alors pour eux? Et puis, il y a la crainte de manquer d'argent plus tard. Il est pourtant relativement simple de projeter ses revenus dans le futur et de s'assurer que ceux-ci seront suffisants pour permettre de maintenir le niveau de vie compte tenu de l'inflation projetée et du rendement prévu des REER. Décaisser quoi en premier? Quoi qu'il en soit, si vous détenez des placements enregistrés, REER, CELI, CRI ou FER, et des placements non enregistrés, il est préférable de décaisser ces derniers en premier. De cette façon, les sommes investies dans les placements enregistrés pourront continuer de générer des rendements à l'abri de l'impôt jusqu'à ce que vous décidiez de les retirer. La seule exception à cette règle est la suivante. Si vous pensez que vous pourrez, à 65 ans, bénéficier du supplément aux revenus garantis de la pension de la sécurité de la vieillesse du fédéral. Le fait de retirer des REER après 65 ans pourrait alors vous pénaliser de façon importante. Cependant, il est presque certain que vous n'aurez pas droit à cette prestation supplémentaire si vous cotisez à un régime de retraite privé, RÉGOP, RRPE, etc., puisque vos revenus seront trop élevés. À retenir. Il est rarement souhaitable de retirer des placements enregistrés hâtivement dans un but d'économie d'impôts. Sous réserve des conditions applicables, il vaut toujours mieux payer l'impôt plus tard que plus tôt. Planifier l'aspect financier le plus tôt possible assure indéniablement plus une retraite à la hauteur de vos aspirations. Travailler avec des conseillers financiers est une avenue profitable pour maximiser votre patrimoine et votre stratégie de décaissement. C'était « Les stratégies de décaissement les plus performantes », un texte de Beneva, paru le 22 février 2025 dans Virage.
Une terre pleine de vie, un texte de Gabriel Anquetil, paru le 4 février 2025 dans Québec Science. Et si la terre était un véritable organisme vivant? Un nouveau livre jette un regard scientifique sur cette hypothèse un peu mystique. Il est temps de le reconnaître, notre planète est vivante. C'est en tout cas l'idée inattendue que propose l'auteur et journaliste scientifique américain Ferris Jarber dans son nouveau livre « Cette terre qui respire, titre original, Becoming Earth, How Our Planet Came to Life. S'appuyant sur des décennies de recherches, il vient remettre en question l'idée selon laquelle les êtres vivants évoluent en fonction de leur environnement, sans avoir d'influence en retour sur ce milieu. Il démontre que ce sont en grande partie les êtres vivants qui ont plutôt, depuis toujours, modelé la face de la Terre. Fruit de 6 ans de travail, l'ouvrage s'articule en 3 volets, roche, air et eau, et efface les frontières entre l'animé et l'inerte, entre biologie et géologie, et argue, science à l'appui, que tout cela évolue conjointement. Québec Science. Dans l'introduction du livre, vous reprenez l'idée que la Terre est vivante, un concept proche de Gaïa ou de la Terre-mère. Cette idée a déjà eu un écho chez un pan du public, mais pas forcément dans la communauté scientifique. Quel est le rapport historique de cette thèse avec la science? Ferris Jabber. Les Grecs de l'Antiquité et même les penseurs de la Renaissance étaient très à l'aise avec l'idée que la planète est vivante. C'est avec Charles Darwin que ce type d'idée devient impopulaire. La science devient alors beaucoup plus empirique, fondée sur des preuves. Les scientifiques veulent classer les choses aussi précisément que possible. Ils tiennent à séparer le non-vivant du vivant, ce qui les mène à voir la vie comme un phénomène qui se passe uniquement sur la surface de la Terre et à considérer que le reste est inanimé. Dans les années 1960, James Lovelock, un scientifique et inventeur britannique, a formulé ce qu'il a appelé l'hypothèse Gaïa en s'opposant au modèle évolutionniste dominant. Pour Lovelock, partout où la vie émerge, elle transforme inévitablement l'environnement. En collaboration avec la biologiste américaine Lynn Margulis, il a développé cette idée selon laquelle la vie et l'environnement planétaire constituent une seule entité vivante autorégulée. Son premier livre, en 1979, a été très populaire auprès du grand public, notamment car il coïncidait avec l'essor du mouvement Nouvel Âge. Mais la plupart des biologistes n'étaient pas d'accord, puisque la Terre n'est pas un produit de la sélection naturelle et qu'elle n'a pas de génome, qu'elle ne peut pas se reproduire. En somme, pour eux, elle n'était pas vivante. Québec Science. Alors comment pouvez-vous affirmer le contraire aujourd'hui? Ferris Jabber. Attention, la Terre n'est pas un être vivant comme un oiseau ou une bactérie, ni un super-organisme comme une colonie de fourmis. Notre planète est le plus grand système vivant connu, la confluence de tous les autres écosystèmes. Ainsi, la vie n'est pas un ajout à la planète, mais plutôt un prolongement physique de celle-ci. La Terre est une planète qui a pris vie. Je vois désormais les êtres vivants comme les organes de la Terre et leur activité globale comme la physiologie de la planète. De plus, la vie et l'environnement planétaire, au sens large, forment un seul système hautement interconnecté qui évolue au cours du temps. Et ce système possède de nombreuses caractéristiques propres à la vie, c'est-à-dire une anatomie, une physiologie, une évolution et, peut-être le plus important, une autorégulation et une résilience étonnante, en partie parce qu'il peut stabiliser son climat sur de longues périodes. Cette vision correspond aux plus récentes connaissances scientifiques. Québec Science. Comment éviter de tomber dans le piège de l'anthropomorphisme comme c'est arrivé dans le passé? Ferris Jabber. Il faut en effet faire preuve de prudence, notamment dans le choix des mots. Par exemple, Lovelock a appelé son idée Gaïa, comme la déesse grecque, qui est une figure maternelle, à la suggestion du romancier William Golding, qui a écrit « Lord of the Flies ». Cette décision a mené à une grande réussite commerciale, mais a créé un énorme problème dans le monde scientifique, ce qui a vraiment ralenti la propagation de ces idées. Il n'est pas nécessaire de transformer la Terre en figure religieuse ou de la présenter comme une entité sensible. Notre planète est le plus grand système vivant connu, la confluence de tous les écosystèmes. Québec Science, comment avez-vous été convaincu que la Terre est elle-même fortement influencée par la vie? Fierce Jabber, il y a plus de 10 ans, j'ai découvert que la forêt amazonienne produit sa propre pluie. Et ce qui m'a étonné, c'est de voir à quel point cela ne se limite pas à des plantes qui extraient de l'eau du sol et la rejettent dans l'atmosphère. En fait, presque tous les êtres vivants de la forêt sont impliqués. En plus de l'eau qui s'évapore, la forêt rejette des panaches de minuscules particules biologiques, comme des grains de pollen, des spores fongiques et même des fragments de carapaces d'insectes. La combinaison de l'évaporation et de ces particules accélère la formation de nuages au-dessus de l'Amazonie. Ce qui m'a encore plus surpris, c'est de voir que ces nuages se déplacent ailleurs dans le monde. Ce phénomène a une influence sur les pluies jusqu'au Canada. On m'a toujours appris que la vie réagit au changement de l'environnement, mais qu'elle n'a pas vraiment d'effet sur celui-ci. L'histoire de l'Amazonie me semblait complètement contredire ce dogme et j'ai voulu savoir s'il existait d'autres exemples de ce type. En faisant des recherches, j'ai découvert que c'est quelque chose qui s'est produit tout au long de l'histoire de la planète. Québec Science, vous commencez votre livre en plongeant au plus profond de la Terre. Qui avez-vous trouvé? Ferris Jabber, je suis allé visiter une ancienne mine d'or qui a été transformée en laboratoire dans le Dakota du Sud. Des biologistes et des géomicrobiologistes y étudient les écosystèmes microbiens du sous-sol. Dans de l'eau, à près d'1,5 km sous la surface, on voyait des filaments constitués de microbes. C'est notamment grâce à ces recherches que les scientifiques ont compris que les fissures de la croûte terrestre contiennent de l'eau riche en micro-organismes très étranges. Ces derniers sont différents de ceux de la surface car ils n'ont accès ni à la lumière du soleil ni à l'oxygène. Donc, ils se nourrissent de métaux, de roches ou de minéraux et excrètent quelque chose qui ressemble plutôt à de la terre. Bref, la vie intervient dans la géologie de la planète. Et elle est partout, profondément dans la croûte terrestre, mais aussi sous la glace, au fond des océans. Québec Science, ce qui nous amène à parler d'ingénieurs d'écosystèmes. Pourquoi est-ce si important? Ferris Jabber, un ingénieur d'écosystèmes, est un organisme, généralement un animal, qui a une profonde influence sur son environnement. Il le modifie et, dans certains cas, en définit même la structure. L'exemple classique est le castor. Il coupe des arbres, ramasse le bois, il l'utilise pour bloquer une rivière. Ce faisant, il crée des étangs, des lacs et des zones humides qui deviennent ensuite un habitat pour de nombreuses autres espèces. Ce genre de phénomène se produit depuis que les animaux existent. L'un des exemples les plus anciens remonte à 530 millions d'années, quand les sédiments du fond marin étaient recouverts d'un épais tapis microbien qui scellait tout. Soudainement, survient l'explosion cambrienne. Toutes sortes d'animaux marins apparaissent, munis d'exosquelettes, d'épines dures. Ils viennent brasser ces sédiments et trouer le tapis microbien, ce qui a permis à l'oxygène de pénétrer dans de nouveaux endroits, créant de nouvelles niches écologiques dans lesquelles de nouvelles espèces ont pu se développer. L'océan est devenu plus habitable. On a longtemps pensé que le cycle des nutriments était uniquement contrôlé par la géologie et la météorologie. Mais on comprend désormais que les animaux déplacent constamment du carbone, du phosphore, de l'azote, tous les éléments indispensables à la vie. Sans les animaux, ces éléments resteraient séquestrés au même endroit pendant très longtemps. Québec Science. Une bonne partie du livre traite de l'influence des êtres humains sur la Terre avec la crise climatique et celle de la biodiversité. Croyez-vous que nous soyons fondamentalement néfastes pour la planète? Ferris Jabber. Pas a priori. Regardez l'histoire de la Terre dans son ensemble. La vie et l'évolution perturbent parfois la planète. On peut penser aux cyanobactéries, qui ont développé la photosynthèse, qui produit l'oxygène de l'atmosphère. Les écosystèmes qui existaient à l'époque n'étaient pas adaptés à un environnement riche en oxygène. Mais à long terme, l'augmentation de l'oxygène dans l'atmosphère s'est révélée extrêmement bénéfique en matière de biodiversité. Quand on regarde l'histoire de la vie, on voit ce phénomène se répéter. Mais il y a une différence avec les crises actuelles du climat et de la biodiversité. Les changements se sont produits en un clin d'œil, d'un point de vue géologique, bien trop rapidement par rapport à la capacité d'adaptation des espèces. Il est vrai que plusieurs de ces changements sont néfastes. Mais ce qui est spécial, c'est que l'humanité peut prendre un pas de recul et comprendre comment les systèmes fonctionnent. Nous avons le pouvoir de changer nos comportements. La plupart des espèces n'ont pas cette possibilité. C'était Une terre pleine de vie, un texte de Gabriel Anquetil, paru le 4 février 2025 dans Québec Science.